Vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin et Elisabeth Asseyag qui a sa solution du jour à nous présenter.
Eh oui, vous souhaitez peut-être offrir un cadeau engagé 100% fait en France. C'est possible, Elisabeth, avec cette solution, la carte française.
Eh oui, et si à Noël, vous demandiez au Père Noël des cadeaux made in France pour vous y aider, une nouvelle carte cadeau est sortie il y a 6 jours. Le salon du made in France, hein, vous l'avez dit Raphaël, se termine aujourd'hui. On a pu le constater, hein, cet engouement pour les produits fabriqués en France. Alors, pour s'y retrouver, il existe cette carte, la carte française, une carte prépayée comme une carte cadeau classique. Elle coûte à partir, tarif de départ, 25 euros et elle peut être dépensée dans un réseau de marques fabricantes ou distributrices partenaires dans des tas de domaines comme dans la gastronomie, le sport, les vêtements, mais aussi pour les accessoires de la maison ou encore les produits de beauté français. Bonjour Charlier.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président cofondateur de la carte française. Alors ça n'existe pas. Et vous avez eu cette idée. Comment vous est venue cette idée de la carte française?
Écoutez, tout le monde nous, et à juste titre, nous dit qu'on peut voter au quotidien avec notre carte bleue. Eh bien, je l'ai sortie du coup, cette carte bleue, blanc-rouge. Chaque année, 5 milliards d'euros de cartes cadeaux sont distribuées à l'occasion de Noël, des anniversaires, des fêtes des pères, des fêtes des mères. Les cartes cadeaux habituelles sont exclusivement dépensables auprès des enseignes habituelles.
Des grosses enseignes, oui.
Des grosses enseignes qui très majoritairement, si ce n'est exclusivement, proposent des produits importés. On voulait flécher cette manne des cartes cadeaux vers les producteurs locaux. Et parmi ces 5 milliards, il y a 1,5 milliard d'euros qui est distribué par les comités d'entreprise, à la tête desquels siègent et décident des élus syndicaux qui toute l'année se battent contre les délocalisations et qui, à l'occasion de Noël, n'avaient pas d'autre choix que de donner du fuel à la machine à délocaliser, à la fast fashion polluante, à la course low cost. Et on s'est dit qu'il y avait une contradiction à résoudre. Et puis ça vaut pour les comités d'entreprise, ça vaut pour les entreprises de manière générale, et puis ça vaut pour vous et moi. Vous n'avez peut-être pas... Si vous devez aller jusqu'à 19h au salon du Made in France.
Hein, on y était,
vous y étiez, effectivement. Mais ceux qui n'ont pas la chance d'aller au salon du Made in France peuvent se voir offrir ou offrir à leurs proches ou offrir, se l'offrir à eux-mêmes tout le salon du Made in France et l'avoir dans la poche.
Dans cette carte. Alors comment ça marche? On la charge, hein, par exemple, je peux la prendre, l'acheter, mettre 25 euros et l'offrir, c'est ça?
Tout à fait.
Je fais comment pour la charger, pour l'acheter?
Eh bien, vous allez sur lacartefrançaise.fr, sinon vous allez sur notre centre E72 sur le salon du Made in France, mais vous allez sur lacartefrançaise.fr, vous choisissez votre montant entre 25 et 150 euros et puis vous la recevez sous 48 heures accompagnée d'un guide qui explique la démarche, puisqu'en plus du coup de pouce budgétaire, on voulait offrir l'argumentaire. Ça fait de chacun d'entre vous un ambassadeur du Made in France.
Comme un petit catalogue
Alors, un peu plus qu'un catalogue. À la fin, il y a effectivement nos 75 premières enseignes qui sont présentées, mais c'est qu'un premier échantillon. On sera 200 à la fin du mois, au moins. Mais vous avez surtout présenté tous les impacts économiques, écologiques, tous les labels expliqués, la règle expliquée, et même un petit test pour vérifier que vous avez bien compris les grands enjeux. Donc voilà, vous offrez les deux cadeaux préférés des Français, un livre et de l'argent.
Éric ? Ah mais moi, il m'impressionne depuis tout à l'heure, il m'a tout vendu. Hein. Il m'a tout vendu,
même
je suis obligé
antenne,
pour la Noël
en antenne,
il a commencé en antenne, il a continué.
Juste, il va vous suivre
il
après,
a
Éric.
Tout fait. Non mais rien que le livre, mais prenez-la la carte cadeau, ne serait-ce que pour recevoir le livre. Le livre, il vous raconte tout, ça va de la French Tech à pourquoi c'est plus écologique,
pourquoi
c'est meilleur, pourquoi il faut acheter français. Il y a tout de début à la fin, en plus cette carte cadeau, on va devoir acheter. Et depuis tout à l'heure, il me taquine parce qu'on doit lancer un espèce de shopping aussi pour nos petits produits chez Quant. Et là, il m'a tué, il m'a dit voilà, mais moi je sais tout amener français. Et là, tu te sens pas bien. Tu dis, je dois avoir un truc qui vient d'ailleurs, moi. Il va falloir que je double vérifie avec lui. Bravo. Non, mais vraiment bravo. Maintenant, comment tu vas pousser ça à tout le monde, en plus d'Europe 1? Parce que Europe 1, attention, hein, tout
ça
à l'heure, tu n'en auras même plus assez de livres, mais à part ça.
Eh bien, effectivement, les journalistes ont un rôle essentiel dans la promotion du Made in France, mais ce n'est pas ici que je l'apprends. Ils font beaucoup depuis pas mal de temps dans cette émission. Mais. Écoutez, on va compter sur le bouche à oreille, on va compter sur les volumes des entreprises, on va compter sur le volume des comités d'entreprise.
Donc vous démarchez surtout les entreprises, hein. C'est votre cible première.
Non, alors là, pour les comités d'entreprise, la saisonnalité, on arrive un petit peu tardivement sur le marché parce qu'ils verrouillent leurs arbres de Noël plus tôt dans l'année. Non, on s'adresse au grand public. Vous ne savez pas quoi, moi je ne sais jamais quoi offrir à mes proches, je n'ai pas de bonnes idées. Là, vous offrez le choix. vous serez sûr entre plein de marques sympas et porteuses de sens. Mais les entreprises, toute l'année, récompensent leurs commerciaux, récompensent leurs parties prenantes, récompensent leurs salariés, leurs clients, toute l'année. On va pousser ça tous azimuts. On va tâcher d'adresser également les touristes, offrir ça et organiser des shopping tours, comme on dit en mauvais français, aux touristes. On a déjà 40 boutiques qui l'acceptent à Paris et les touristes repartiront avec du savoir-faire français.
Et puis c'est aussi l'occasion, il y a des grandes marques que l'on connaît tous dans vos boutiques partenaires, mais c'est aussi l'occasion de faire découvrir des petites marques qui viennent d'exister et qui font des pépites.
Mais
il faut le dire aussi.
Dans le Made in France, il n'y a que des pépites. Moi là, je suis de pied en câble, vous le savez, vous êtes au salon du Made in France.
Ouais.
Là, Gentle Factory, Dao, évidemment, Tufri, le slip français.
On les connaît tous, on les a tous.
Coureur du dimanche, ouais. Le jouet français, vous avez tous les jouets français sur une plateforme.
Fabricant de vernis que personne ne connaît, hop, on les a.
Vous avez même de l'alimentaire, Poiscaille, vous recevez, vous avez sûrement reçu ici, vous êtes livré de poissons pêchés par des pêcheurs français, Fleur d'ici,
les grappes. On pourrait tous les citer, ils sont formidables.
Il y a que des marques formidables, elles sont toutes géniales.
Avant de nous quitter, elle est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, de l'année en cours, c'est ça, hein.
À une exception pour les 1000 premières ont 4 mois de validité supplémentaire jusqu'en avril 2021.
Ah, c'est bon à savoir. Ça s'appelle la carte française, vous la trouvez évidemment au salon du Made in France qui s'achève ce soir. Merci Charles d'être venu nous la présenter.
Merci
sur
Raphaël.
Europe 1.
Il est midi 58.
Europe 1.
Allez, restez avec nous. Depuis quelques jours, vous le savez, la trêve hivernale est entrée en vigueur, mais pour autant, il reste des gens qui dorment dehors toutes les nuits. Comment les aider à retrouver un toit et davantage? On ouvre ensemble le dossier sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on a à cœur de vous montrer qu'il y a des gens qui mettent leurs idées au service des autres pour faire changer la société et tenter de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est ce que font d'ailleurs nos invités aujourd'hui. Tous ont imaginé des dispositifs différents pour essayer de sortir les sans-abri de la rue, leur redonner un toit et peut-être même davantage par la suite. Bonjour Delphine Barthe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Stir Up. Ça s'écrit STIRUP.
Exactement.
C'est une plateforme qui, si l'on traduit, permet de mettre le pied à l'étrier à des sans-abri. Il y a 2 ans, vous avez en fait eu une sorte de déclic, hein, on peut le dire comme ça. Vous avez participé à une distribution alimentaire à Lille. Et là, vous rencontrez une famille.
Exactement, je rencontre une famille avec une maman enceinte qui attendait un heureux événement pour Noël. Et en fait, c'est plus qu'un déclic, c'est même un choc de se dire « c'est juste pas possible, ce bébé, il va pas naître dans la rue en fait, ça va pas pouvoir arriver ». Et c'est là que l'histoire a commencé, puisque j'ai remué ciel et terre pour leur trouver une solution pour les mettre à l'abri. Et j'ai trouvé. Et la meilleure solution, c'était de leur prêter un logement qui était vacant depuis 3 ans.
Voilà. Donc vous vous dites, si je peux le faire une fois, je peux peut-être le faire plusieurs fois. Et vous décidez de monter une plateforme.
Tout à fait. Pour pouvoir les mettre à l'abri, il a fallu mettre en place un outil juridique, un contrat de prêt de logement. Et que je me suis dit, tiens, je vais le diffuser aux associations pour mettre plus de gens à l'abri. Et oui, ça a marché. On a déjà mis 8 personnes à l'abri de manière artisanale. Et au final, ce n'était pas suffisant. Et les associations m'ont poussé à professionnaliser ce projet et à se lancer vraiment sur une plateforme pour mettre des centaines de personnes à l'abri.
Parce qu'au départ, vous créez une association vous-même. Et, oui. Et là, vous êtes en train de passer en entreprise. C'est quoi le changement pour vous ?
Alors, j'ai tout de suite créé une association pour avoir un cadre légal pour pouvoir exercer, notamment au niveau des assurances, des souscriptions de contrats. Et dans mon idée, j'ai toujours voulu fonder une start-up qui va gagner de l'argent avec un enjeu business, déjà parce que je viens du monde du business, pour pouvoir pérenniser en fait. Parce que pour pérenniser l'impact social et pour aider le plus de monde possible, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, tout simplement.
Ce logement, c'est quoi ? C'est une sorte de tremplin ? C'est limité dans le temps ?
Oui, c'est un logement tremplin qui est prêté gratuitement pour une période de 6 mois. Et le but du jeu, c'est vraiment que ce soit un tremplin vers un logement pérenne. Et pendant ces 6 mois, ce logement tremplin, c'est un des moyens dans l'accompagnement social vers un logement pérenne. Et il y a déjà des gens qui sont sortis en moins de 6 mois. Donc, c'est une réussite.
Combien de personnes vous avez mises à l'abri comme ça dans ces logements temporaires ?
De manière pro, depuis que c'est vraiment Stir Up plateforme, c'est plus de 20 personnes.
Et votre ambition, parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment des logements, mais il n'y en a pas assez. Votre ambition, c'est 300 logements.
Alors, 300 logements pour la fin de l'année 2020, donc dans un petit peu plus d'un an. Et après, le but du jeu, c'est d'aller bien au-delà, puisque des logements vacants, il y en a des centaines de milliers en France, même des millions. Il y en a des centaines de milliers qui sont exploitables tout de suite. Et d'aller au-delà de 1000 logements dans un an, dans 2 ans et demi, pardon.
C'est important, surtout quand on regarde, Elisabeth, le nombre de sans-abri en France.
Oui, d'abord, le nombre de sans-abri donc, qui dorment hein, dans la rue a augmenté de 23% en 2018 hein, par rapport à l'année précédente. Et rien qu'à Paris, ils étaient 3641 sans-abri en mars 2019, soit 689 de plus qu'en 2018. On estime à près de 200 000 personnes sans-abri en France, un chiffre qui est sous-estimé par les associations qui, elles, sont sur le terrain.
Éric Léandre est notre coach.
Oui, mais moi j'aime beaucoup Stirrup. J'ai voté pour elle à un concours de start-up il y a peu de temps à Lille et elle a battu d'autres qui pourtant avaient l'air. Pourquoi ? Parce que elle est dans, c'est le parfait exemple de l'économie sociale et solidaire, de la start-up de l'économie sociale et solidaire. Elle a trouvé un business plan, un business model et il faut absolument que les grands groupes signent de suite avec elle parce que ces 300 qu'elle doit rentrer, eh ben, elle va les rentrer et ce qu'elle a trouvé, c'est la garantie pour 6 mois, pour 9 mois. Elle a validé les choses juridiques, elle a validé la façon de vous assurer. Elle a trouvé un moyen de garantir que si ça se passait pas bien ou qu'il y avait des dégradations, eh ben, c'était assuré aussi. Je veux dire, il y a plus aucune raison de ne pas se tourner vers elle.
Alors justement, comment vous faites pour arriver à tout ça ? Tout ce que vient d'énumérer Éric.
Comment je fais ? Je bosse beaucoup. Non, je rigole. Côté assurance, effectivement, les personnes...
Il y a des gens qui vous suivent.
Oui, tout à fait. Je travaille avec un assureur qui permet, le groupe SADA, qui permet d'avoir une assurance habitation avec de très hautes garanties, mais un tarif très solidaire. Et après, je fais souscrire aussi aux occupants de ces logements tremplins une garantie qui couvre le risque de dégradation et aussi le risque de frais juridiques si ça ne se passait pas bien. En gros, chez Stirrup, il faut que ça se passe bien. Et si ça ne se passe pas bien, il faut que ça se passe bien quand même.
Oui, et puisqu'on n'a pas dit, c'est que le propriétaire qui a un logement vacant, il a la possibilité, en prêtant ce logement, de défiscaliser une partie de son loyer. Oui. Puisque c'est l'équivalent d'un don en nature.
Exactement, et c'est pour ça que les gens prêtent. Ils ont des antennes solidaires, mais pas que. Un propriétaire qui prête gratuitement un logement vacant, c'est l'équivalent d'un don en nature à une association d'intérêt général. Et donc, il peut défiscaliser, c'est une réduction d'impôt jusqu'à 66% sur l'impôt sur le revenu et jusqu'à 60% sur l'impôt sur les sociétés. Et c'est pour ça que les propriétaires prêtent, c'est parce qu'ils ont un intérêt financier. Et quand les propriétaires gagnent de l'argent, Stirrup gagne de l'argent. Et c'est très rassurant pour les propriétaires. Mon objectif, c'est que Stirrup gagne de l'argent. C'est le même objectif qu'eux, donc ils se sentent en sécurité.
Combien vous êtes pour faire fonctionner Stirrup aujourd'hui ?
On est deux depuis une semaine.
Deux depuis une semaine. Et vous allez, malgré tout, signer un contrat avec le ministère du Logement ?
Alors oui.
C'est dans les tuyaux ?
Alors c'est dans les tuyaux. Ça s'appelle un contrat impact social, en fait. Ça sera plutôt pour le... Enfin, c'est prévu pour la fin du premier semestre 2020. Justement on signe un contrat où, en mettant à l'abri des gens gratuitement pendant 6 mois, on fait faire d'importantes économies au gouvernement. Et donc, on va signer un contrat cadre, je dégrossis un petit peu, hein. On va venir se rémunérer sur les économies qu'on a fait faire au gouvernement. On va en prendre une partie, c'est quelque chose qu'on négocie en amont. Évidemment, on mesure les objectifs atteints, l'impact social pour pouvoir se rémunérer là-dessus.
On reste ensemble et on continue à parler logement pour les personnes qui dorment dehors aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et il y a de plus en plus de femmes qui dorment dehors justement. Et si une initiative était menée spécialement pour elles, c'est le cas avec Merci pour l'invite. A tout de suite.
Du 1er novembre au 31 mars, aucune expulsion locative ne peut avoir lieu, c'est la trêve hivernale. Et c'est notre dossier du jour, Raphaël Duchemin, on parle des solutions qui existent avec vos invités. Et si vous, auditeurs, en connaissez aussi, eh bien rendez-vous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Chaque année, le 115 est débordé d'appels et n'arrive pas à faire face aux demandes qui se multiplient d'hébergement dans des foyers ou dans des hôtels. Alors, une idée est née pour que les femmes qui sont dans la rue puissent être prises en charge. Bonjour Kirill Teria.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes responsable du projet Merci pour l'invite. Et vous voulez développer le premier réseau d'hébergement citoyen pour les femmes sans abri. Racontez-moi comment est née l'idée.
Alors l'idée est née tout simplement parce qu'on est parti de plusieurs constats. C'est-à-dire que premièrement, les femmes qui sont à la rue sont exposées à des violences quotidiennes, à différents types de violences, que ce soit des violences sexuelles, voilà, des viols, des violences physiques, du harcèlement. Et d'autre part, les hébergements d'urgence sont saturés, comme on le sait. Et puis, en plus, ils ne sont pas forcément adaptés aux femmes, tout simplement parce qu'ils sont mixtes. Et donc, ils ne protègent pas forcément les femmes des violences auxquelles elles peuvent faire face dans la rue. Et donc l'idée, voilà, c'était de proposer une alternative à ces hébergements d'urgence, une alternative qui soit bienveillante pour les femmes qui sont en difficulté.
Alors l'idée, elle naît il y a 2 ans, hein, je crois, à peu près. La directrice de l'association Solinum part de ce constat qu'une femme à la rue est beaucoup plus susceptible effectivement d'être agressée et de subir de l'insécurité. Or, le constat en même temps, c'est que l'hébergement, c'est le premier pas vers la réinsertion.
Voilà, exactement. Parce que, en fait, si vous êtes une femme dans la rue, ou même d'ailleurs un homme dans la rue, vous êtes constamment dans une stratégie de survie. Et dans ce cadre-là, vous vous posez tout le temps la question de savoir où vous allez pouvoir manger, où vous allez pouvoir dormir. Et donc, c'est totalement impossible de pouvoir prévoir l'avenir, de pouvoir envisager un futur un petit peu plus serein. Donc voilà, nous, on considère que l'hébergement, c'est la première étape vers une potentielle réinsertion.
Alors, comment ça marche ? Qui met en contact les personnes qui sont dans la rue avec les familles qui acceptent d'héberger ?
Alors en fait, on va avoir d'une part des personnes qui vont s'inscrire sur notre site mercipourlinvite.fr pour accueillir. Mmh. Et puis à côté de ça, on va avoir donc des femmes qui sont en difficulté, qui nous sont orientées par des travailleurs sociaux, donc des associations en général, qui vont s'engager à poursuivre le suivi social des personnes pendant la durée de l'hébergement et qui vont aussi nous assurer que les personnes qui sont accueillies ne présenteront pas de danger pour l'accueillant.
Donc elles passent une sorte de contrat ensemble, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Voilà. Bah en fait, nous, la personne qui est accueillie connaît son association référente et avec nous, il va y avoir une sorte de contrat au moment où on va faire signer une convention au moment du début de l'hébergement qui va permettre de fixer les différentes règles et voilà de savoir un peu quel est le rôle de chacun dans ce type d'hébergement.
Elles font connaissance dans un lieu qui est neutre et puis si le contact passe bien, elles se revoient une deuxième fois pour faire connaissance de manière un peu plus précise.
Voilà, exactement. Donc en fait, il va y avoir une première rencontre à laquelle on va participer. Donc là, l'idée, c'est simplement de briser la glace, que les personnes, les accueillants et les personnes qui sont accueillies puissent se rencontrer et discuter un petit peu. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un premier échange. Et nous, on participe à ça pour pas que ce soit une mauvaise expérience pour l'une ou l'autre des parties. Et si ça se passe bien, on organise une deuxième rencontre qui va permettre de débuter l'hébergement. Et à ce moment-là, donc nous, on est encore présents. À ce moment-là, on va signer la convention et l'hébergement va pouvoir démarrer.
Hébergement sur combien de temps ?
Alors, l'hébergement dure jusqu'à 1 an. Parfois, ça peut être chez plusieurs personnes parce que les personnes qui s'inscrivent ne peuvent pas forcément accueillir pendant 1 an. Donc, on leur demande d'accueillir au minimum 2 semaines et jusqu'à 1 an si ça se passe bien.
Eric ?
Alors, comment ils s'inscrivent ? C'est numérique ? Il y a une application ? On peut choisir les personnes qui viennent ? C'est quoi l'idée ?
Alors, les personnes s'inscrivent sur notre site mercipourlinvite.fr. Il va y avoir un formulaire pour les personnes qui souhaitent accueillir. Donc, voilà, ça va être des informations assez basiques sur voilà, leur adresse, quel logement, voilà, combien de temps ils souhaitent accueillir. Et à côté de ça, sur ce même site, mercipourlinvite.fr, on va avoir un formulaire pour les personnes, les travailleurs sociaux, qui vont nous orienter les femmes par ce biais-là.
Pour l'instant, vous êtes présent en Île-de-France et en Gironde ?
Voilà, tout à fait. On est présent en Île-de-France et en Gironde.
L'idée, c'est évidemment d'essaimer un petit peu partout dans les autres départements ?
Exactement, c'est ça l'objectif. Maintenant, on a déjà des personnes qui s'inscrivent en région, dans toute la France, et on n'a pas forcément la capacité de leur envoyer, de leur orienter des personnes dans le besoin. Mais voilà, à terme, on espère pouvoir ouvrir plus de départements.
Qu'est-ce qui vous manque pour ça ? Des relais ?
Alors oui, des relais, puis aussi il faut qu'on puisse avoir des gens qui sont présents dans les différentes zones qu'on souhaite investir, entre guillemets, et voilà.
Eric ?
Non, je me demandais juste, et sortir les gens d'Île-de-France pour repartir dans des endroits où il fait peut-être plus facile de repartir dans
trouver
une vie normale,
un logement.
C'est pas...
Est-ce que c'est envisageable ?
C'est dans ton esprit ?
Alors, en fait, c'est une idée qu'on a, mais le problème qui se pose, c'est que souvent, les personnes qui nous sont orientées, même si elles n'ont pas un domicile à proprement parler, elles ont des repères et des attaches dans leur ville. Donc, à Paris, par exemple, elles ont des connaissances aussi, des amis. Elles savent où sont les services qu'elles peuvent utiliser dans des villes. Donc, en général, les personnes sont assez réticentes.
Elles n'ont pas forcément envie de se déplacer.
Et en plus, non.
Changer
et puis,
de ville.
Voilà, exactement.
C'est leur seul repère, finalement.
C'est ça. Et
pas puis, les déboussoler davantage.
Il y a souvent des démarches qui sont en cours dans une ville avec un travailleur social qui suit la personne. Donc, c'est compliqué de changer de ville comme ça.
Elisabeth, il y a d'autres applis pour aider les sans-abri, notamment pour les repas, je crois.
Oui, vous avez par exemple l'application Homeless Plus, qui permet de géolocaliser les sans-abri pour leur apporter une aide directe. Le principe, c'est que vous puissiez donner ou pas, hein, c'est pas la question. C'est le fait juste de se rapprocher d'un sans-abri, vous le géolocalisez avec son accord. Et là, ça peut permettre aux personnes qui sont autour de lui, aux associations, aux commerçants, aux collectivités, de pouvoir lui venir en aide. C'est une application qui a été téléchargée plus de 15 000 fois. Elle a surtout permis, alors qu'il est à 7 000 sans-abri, d'être localisé et aidé en France, mais aussi dans une vingtaine de pays. Vous avez aussi les frigos solidaires. Ce sont des frigos en libre-service pour les plus démunis. Là aussi, c'est proposer un maximum de produits frais, de les distribuer de manière simple, anonyme. Pendant toute la journée, les personnes peuvent se servir rapidement sans demander d'autorisation. Ça avait commencé à Paris, dans le 18e arrondissement. Il y a eu quelques petits récemment là, qui sont en train de partout dans Paris.
On reste ensemble et on continue à parler logement pour les sans-abri sur Europe 1.
Il est 13h28.
Restez avec nous. Si on mettait en place des petites maisons mobiles pour les personnes en situation de grande précarité, eh bien c'est l'ambition justement d'un toit vers l'emploi. À tout de suite.
Vous êtes avec Raphaël Duchemin jusqu'à 14h pour La France Bouge. C'est le début de la trêve hivernale. Alors on s'intéresse aujourd'hui aux solutions pour loger les sans-abri avec nos invités. Mais avec vous aussi, n'hésitez pas à nous appeler au 3921, 50 centimes la minute.
Vous avez tous entendu parler de ces tiny houses qui fleurissent aux États-Unis notamment. Eh bien, elles arrivent en France, hein, ça y est, ces logements de petite taille qui peuvent être le nouveau point de départ pour des sans-abri. Bonjour Franck Renaudin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé dans des ONG en Haïti, aux Philippines pendant longtemps. Et puis en 98, vous avez créé Entrepreneur du Monde. Mais il y a 3 ans, vous avez eu envie finalement de changer votre fusil d'épaule, de revenir ici en France, faire ce que vous faisiez à l'autre bout de la planète, c'est-à-dire aider les gens dans la précarité. Pourquoi les tiny houses ?
Eh bien parce que je cherchais à trouver une solution, une réponse pour les personnes sans abri, notamment sur la métropole de Rouen où j'habite maintenant depuis 5 ans. Et je ne savais pas par où m'y prendre, comment faire. Et en fait, c'est en lisant un article dans le magazine La Vie en 2016 que j'ai découvert le concept des tiny houses. Et là, ça a été comme une évidence. Mais je me suis dit, mais bien évidemment, voilà une solution qui permet à un moindre coût de proposer d'abord un logement à des personnes dans la rue, ensuite de les accompagner à la recherche d'emploi, et ensuite de déplacer leur maison, de rapprocher les maisons des bassins d'emploi, du potentiel employeur. La mobilité étant souvent un frein énorme pour des personnes sans abri.
Alors voilà. Vous avez l'idée et puis après, qu'est-ce que vous faites ?
J'ai l'idée, mais entre-temps, je suis quand même toujours directeur de l'ONG Entrepreneur du Monde qui ne cesse de se développer, de grandir, de voilà. Donc, j'annonce aux équipes en 2016 que je prévois de me désengager pour m'occuper de projets ici sur le territoire et je me donne du temps pour le faire, pour me désengager. Et c'est ce que j'ai fait en début d'année. Donc, j'ai quitté mon poste de direction et pour lancer le programme Un Toit vers l'emploi sur la métropole de Rouen.
Vous avez commencé à lever des fonds pour faire livrer les premières maisons. Comment ça se passe ?
Alors oui, tout à fait. En fait, moi, je crois beaucoup. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Et donc, pour convaincre les gens un peu sceptiques, je ne vous cache pas que l'accueil au démarrage, notamment par les collectivités, a été assez mitigé. Et dans ce cas-là, moi, pour faire changer les avis, la meilleure réponse, je crois, c'est de passer à l'action. Donc, on a fait un partenariat avec le site Les Petites Pierres, hein, qui est une plateforme de crowdfunding formidable parce qu'elle abonde chaque don reçu. Et on a pu financer nos 2 premières maisons grâce à eux. Et la 3e maison est en cours de financement avec eux. L'objectif, c'est d'en financer 5 en tout, de placer les 5 premiers bénéficiaires et de démontrer ainsi que c'est possible, qu'on peut le faire. Et je constate d'ailleurs que l'accueil est bien meilleur aujourd'hui depuis la rentrée, depuis que les partenaires, les gens, les collectivités, les municipalités savent que les 2 premières maisons arrivent.
Oui, parce que vous avez réussi à convaincre la ville de Rouen de vous céder un terrain pour que ces maisons s'implantent
Alors, je croise les doigts pour que ce soit le cas. On les voit mercredi, hein, bon. dans 2 jours, pour négocier le premier terrain pour notre premier bénéficiaire. qui est David, 38 ans, qui vit dans un squat et qui passe ses journées sur un terrain qui appartient à la ville de Rouen. Il fait de la permaculture toute la journée, il est passionné par ça, mais il se trouve que le terrain appartient à la ville de Rouen, donc on les voit mercredi pour négocier avec eux l'implantation de la première maison sur leur terrain.
Qui va payer? Est-ce qu'il va y avoir un loyer? Est-ce qu'une fois dans ces tiny house, la personne qui l'occupe aura des frais sur l'énergie, par exemple?
Alors, qui va payer? Le modèle économique, c'est la création d'une entreprise. Je crois beaucoup, comme Delphine, aux vertus de l'entreprise, de l'entrepreneuriat pour ce type de projet social. Et du coup, il y a un loyer, mais il y a un loyer qui est proportionnel au revenu. Donc, ça veut dire que le loyer peut partir à la hausse dès qu'on trouve un emploi au SMIC pour une personne, ou voire mieux que le SMIC. Mais en cas de coup dur, si la personne perd son emploi, qu'elle n'a plus rien, pas de RSA, éventuellement quelques mois sans loyer. Et l'autre partie du modèle économique, c'est de la vente de maisons à un public hors cible. On prévoit aussi de vendre une partie de la production à des châteaux relais, d'autres cibles.
Parce que pour l'instant, vous les faites fabriquer en Bretagne, ces tiny house, mais vous avez dans l'idée de les faire vous-même.
Tout à fait.
Pour faire baisser les coûts, notamment.
Alors, pour faire baisser les coûts, pour avoir des circuits courts, la dimension environnementale est extrêmement importante, et puis pour permettre au public cible, pour quelques-uns d'entre eux, de s'insérer dans cette entreprise de production. Donc voilà l'objectif. Et elles seront complètement autonomes en énergie. C'est aussi pour ça qu'on veut les faire localement, c'est pour les rendre complètement autonomes et donc complètement mobiles.
Eric, notre coach, Eric Léandré.
Ça fait encore des idées supplémentaires. Le vrai problème, et parce que quand j'écoute, j'aimerais que ça se développe grandement. Le vrai problème, c'est le temps des municipalités pour trouver des terrains, les donner et avoir un peu d'eau quand même sur ces terrains. Donc ce problème-là, je me demande si, maintenant que les municipalités ont ce type de solution, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir se mettre tous ensemble, commencer à se parler, là il y a le salon des maires, est-ce qu'ils ne pourraient pas se mettre à en parler pour voir si on ne peut pas trouver quelque chose qui permette d'accélérer ce type de solution rapidement, parce que c'est le seul frein que je vois, que ce soit pour l'agriculture bio, la perma, ce que tu proposes, à chaque fois ce problème de terrain... Tu as des idées, tu vois des solutions ou on oui. leur dit simplement maintenant à Europe 1, allez-y.
On leur dit, allez-y. Mais encore une fois, moi je vois en 9 mois de temps l'évolution des mentalités par rapport au projet, l'accueil aujourd'hui nettement plus favorable, donc je suis convaincu que ça va aller dans le bon sens quand les acteurs verront que ces maisons sont des maisons ultra confortables, qu'elles n'ont aucune empreinte écologique, pratiquement aucune.
Et on peut les retirer.
Bah oui, elles sont parfaitement mobiles. Ouais. Et puis alors on n'attend pas que les municipalités. On va lancer un appel à citoyens au niveau de la métropole de Rouen pour qu'on nous prête des bouts de jardin. Donc les citoyens sont aussi invités à être partie prenante de la solution.
On reste ensemble et on continue à parler logement aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
Et on vous attend 3921 Twitter, hashtag Europe 1. La France bouge avec vous. A tout de suite.
Europe 1.
Depuis le 1er novembre, c'est la trêve hivernale et grâce à vos invités Raphaël Duchemin, on voit que des solutions existent pour loger les sans-abri. Bienvenue évidemment si vous voulez participer pour donner d'autres solutions ou pour poser des questions à nos invités. Eh bien, on vous attend dans la France bouge au 39-21, 50 centimes la minute.
Nous sommes avec Delphine Barthes, fondatrice de Styrup, Kéril Torilla, responsable du projet Merci pour l'invite, Franck Renaudin, responsable du projet Un toit vers l'emploi, notre coach Eric Léandré, fondateur de Quant, et bien sûr à mes côtés Elisabeth Assayag. Justement, Elisabeth, vous avez trouvé une autre façon d'accueillir les sans-abri?
Oui, ça s'appelle, c'est une association, les petites maisons solidaires, ça se passe dans le Nord. Hein. Vous avez l'air de bien les connaître, oui. Juliette Morel.
Oui, ça me fait sourire parce que les petites maisons solidaires, c'est une histoire d'amitié et un partenariat, puisqu'aujourd'hui, il y a des futurs locataires d'une tiny house sur un écoquartier par les petites maisons solidaires qui sont rentrés il y a 2 semaines dans un logement tremplin Styrup parce que leur logement, leur tiny house n'est pas encore prête.
Il y a une connexion entre les trois. Voilà. Juste pour nos auditeurs, pour nos auditeurs, je vous explique ce que sont les petites maisons solidaires. Le fondateur, lui, il a commencé cette aventure en transformant sa maison en un Airbnb solidaire. L'idée, c'est de louer la maison à des touristes ou à des particuliers et de reverser l'intégralité des fonds récoltés pour payer le loyer d'une famille en précarité.
Voilà pour les exemples qui sont nombreux finalement quand on regarde ce qui se passe dans nos régions. Moi, je voudrais juste faire une remarque. Il y a quelques temps, avec Reporters des Sports, on a donné des prix et on a notamment primé un reportage qui avait été fait en Finlande. Parce que qu'est-ce qui se passe en Finlande ? Il y a un programme qui a été mis en place par le gouvernement pour reloger les sans-abri, pour les réinsérer. Ça fonctionne, ça fait 30 ans que ça existe, ce système là-bas. Et le gouvernement, écoutez bien, estime que ça permet de faire par personne, une économie de 15 000 euros par an. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de parlant, Franck Renaudin.
Oui, complètement. Enfin, je crois qu'il y a... dès qu'on aura compris qu'en donnant d'abord un logement à des personnes en grande précarité, il y aura énormément d'atouts et notamment, ce sera un coût nettement inférieur pour la société. Donc, on a tous intérêt à aller vers ça.
Et en même temps, en Finlande, le nombre de sans-abri a baissé alors que le nôtre, et Elisabeth Odelichi tout à l'heure, augmente sans cesse. Eric,
moi, j'aimerais vraiment qu'on mappe tout ça.
Tu veux, c'est-à-dire
avoir une cartographie. Combien de terrains, combien de logements vacants dont on parle, combien de personnes dans la rue, combien de choses. Qu'on le mappe une fois pour toutes sur la taille de la France pour se donner un vrai plan d'action globale avec tous vos efforts à vous. Et je crois que ça serait vraiment là. On y est.
Il y a plein d'initiatives de part et d'autre. Et en fait, il faudrait que vous soyez tous réunis.
Est-ce que c'est une idée qui pourrait faire sens, qui vous inspire, Delphine, Kéril, Franck ?
Alors moi, ça m'inspire tout à fait. C'est ce qu'on met en place avec Stirrup, puisque le fameux contrat impact social, c'est pas Stirrup tout seul. Je le mets en place avec tous les partenaires associatifs, où on va couvrir l'ensemble du dispositif, du repérage des personnes qui sont en grande précarité, jusqu'à leur accompagnement, leur sortie vers un logement pérenne. Donc on essaye d'impliquer tous les acteurs. Et moi, mon enjeu au deuxième semestre 2020, c'est d'aller répertorier, chercher tous ces acteurs pour qu'on travaille ensemble sur le territoire français en entier.
Je regardais, il y a un jeune sociologue de Nancy qui vient tout juste de terminer une étude dans la rue. Il est resté pendant plusieurs semaines avec des sans-abri. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Il en tire la conclusion qu'il faut, lui, mettre des centres avec des éducateurs, finalement, trouver des lieux pour ces personnes, pour justement les amener vers la réinsertion. Est-ce que c'est une bonne idée, Franck Renaudin ?
Oui, complètement. Nous, on est allé à la rencontre d'une trentaine d'acteurs sociaux de la métropole de Rouen. C'est une ville très dynamique à ce niveau-là. Et en fait, on s'est aperçu que l'aide sociale était très très verticalisée et notre proposition est une bouffée d'oxygène pour beaucoup d'entre eux qui voient là l'occasion de faire de la transversalité entre eux et dans notre projet il y a un lieu d'accueil pour le public cible, pour les bénévoles, mais aussi pour de l'écoute sociale et du référencement avec des postes mutualisés avec l'ensemble des acteurs sociaux. Donc du coup je crois qu'il y a une grande attente pour cette transversalité qui est trop peu présente aujourd'hui dans nos territoires.
Même chose pour vous, Kéril.
Bah, nous, de toute façon, on travaille avec les différentes associations qui nous orientent des personnes, pour répondre à la question de tout à l'heure. Mais après, voilà, la création de nouvelles structures, de notre point de vue, c'est peut-être pas la priorité, parce que nous, on se rend compte que chaque citoyen peut aussi se mobiliser à son échelle. Dans le cadre de notre projet, si on a une chambre libre, on peut faire quelque chose, on peut essayer de changer la vie d'une personne. Donc voilà, c'est vrai que avant tout, nous, on pense qu'il est important que les citoyens se saisissent aussi des problèmes parce qu'on peut faire quelque chose à notre échelle.
Merci d'avoir rappelé ce message. C'est vrai, vous avez raison, on peut tous agir. Ça commence par là, ne serait-ce qu'un sourire, un bonjour. C'est ce qu'on disait l'année dernière, parce qu'on a fait plusieurs émissions consacrées aux personnes qui sont dans la rue.
Un bonjour, comment ça va ?
Ouais, un bonjour, comment ça va, c'est déjà énorme. Et évidemment, par la suite, on peut dialoguer. C'est aussi très important. Merci d'être venus tous les trois aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1.
Restez avec nous, on va faire connaissance avec le tout dernier fabricant de papier peint en France, UGPA, est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et comme chaque jour dans La France bouge, un petit peu avant 14h, Raphaël Duchemin, on s'attarde sur l'entreprise qui va bien, merci.
Et cette entreprise, eh bien c'est UGPA. Bonjour Pascal Cielet.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'UGPA. C'est à Moreuil, dans la Somme, qui est installé le dernier, je dis bien le dernier fabricant de papier peint français.
Effectivement, on est installé au sud d'Amiens et l'entreprise a été créée en 1974. On est le dernier concurrent est tombé en 2013. Et aujourd'hui, on est le dernier fabricant de papier peint industriel avec des rotatives et employant 125 personnes.
Oui, 1974, quand ça démarre, ce sont deux Allemands qui créent en fait des réseaux, des magasins en France, c'est ça ?
Effectivement, il y a un réseau de magasins en France implanté à l'époque qui s'appelle Galerie du Papier Peint. On les a tous entendus, en tout cas les gens de mon âge, les pubs et les jingles à la radio. Et ce réseau de magasins n'arrivait pas à avoir accès à la fabrication du papier peint en France, était obligé d'importer d'Allemagne et d'Angleterre.
600 magasins.
600 magasins, c'était un des plus gros. Il y avait deux familles à l'époque, il y avait les GP, les Galeries du Papier Peint et les Fouqueray. Et eux ont décidé de construire leur propre usine avec l'aide de deux Allemands qui étaient déjà des imprimeurs de papier peint en Allemagne.
Vous arrivez comment dans cette aventure ? On est en 1992, je crois.
Et alors, chez UGPA, oui.
Vous tombez dedans finalement, parce que vous êtes en Grande-Bretagne et puis on vous fait des propositions pour revenir en France et il y a deux propositions sur la table.
Oui, effectivement, c'est à la fin de mon armée, j'ai deux propositions sur la table pour rentrer dans le papier peint. Il y a l'usine UGPA au fin fond de la Somme et puis il y a la très connue usine et emblématique marque Vénilia, dont on a tous vu les jingles à la télé. Et j'ai décidé de choisir non pas l'entreprise flambant neuve avec son siège à la Défense, mais la petite usine, la petite PME, on va dire un peu familiale, de la Somme.
Pourquoi ?
J'ai senti que j'avais un attachement pour cette entreprise dès le départ. Les salariés, le PDG allemand, qui ne parlait toujours pas très bien français, mais qui était très attachant et surtout passionné par son métier. Il m'a laissé ma chance, il avait entendu parler de moi en Angleterre via un client américain, dont j'avais fait la connaissance en 92 là-bas. Et tout de suite, j'ai senti qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose dans cette entreprise. En fait, il y avait plein de choses à faire.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le papier peint ? Ça a un côté, même si ça revient très fort à la mode, c'est un petit côté désuet, un petit peu suranné.
Oui, mais c'est un métier où on est sans cesse obligé de se remettre en cause. Il y a une vraie dynamique. On n'est pas sur du papier peint qui est de la rénovation ou un objet de bricolage. On est sur un vrai produit de décoration où la mode, la tendance, un peu comme dans le textile, ou les tissus d'ameublement, mais aussi la mode vestimentaire, où il y a sans arrêt des changements et des micro-capsules au niveau des tendances qui fait qu'on doit sans cesse se remettre en cause.
Vous avez dit que le dernier est tombé en 2013. En 1995, il y avait encore 7 fabricants de papier peint en France.
Effectivement, tous sur le nord de la France, on va dire sur la région de Châlons-en-Champagne et sur l'équivalent des Hauts-de-France aujourd'hui. Mais en Angleterre également, en 92, il y avait une trentaine de fabricants de papier peint. Il n'en reste que 4 aujourd'hui. Donc c'est vraiment un métier qui a souffert pendant une longue période.
Et alors, tout est fabriqué dans l'usine Picard. Quand je dis tout, c'est-à-dire le papier, le dessin, tout est imaginé en Picardie.
Alors les matières premières, forcément, ne viennent pas de France aujourd'hui. Elles viennent, mais pas loin, elles viennent d'Angleterre, d'Allemagne, de Finlande et de Hollande. Donc on est vraiment sur des approvisionnements européens à côté de chez nous. Mais tout est conçu et fabriqué en France.
150 personnes qui travaillent.
125 aujourd'hui.
Ce qui vous a sauvé finalement, c'est que quand vous avez vu que l'industrie du papier peint commençait à décliner, vous avez commencé à faire des productions plus courtes et aussi à faire vos propres designs. C'est ça véritablement qui a fait la différence ?
Ce qui a fait la différence, c'est qu'on a toujours été tourné vers l'export. Tous nos concurrents français étaient tournés sur la France. On s'est diversifié vers l'export. On a commencé aussi à avancer notre propre marque, alors qu'avant on était essentiellement des façonniers, mais tout en gardant ce métier de façonnier qui consiste à mettre ses moyens de production au service des entreprises créatrices de papier peint.
Notre coach, Eric Léandri.
Moi, je suis impressionné. En plus, il y a quelques jours, on m'a annoncé qu'on allait mettre du papier peint dans notre nouveau siège de Coint à Nice. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? La dernière fois que j'en ai vu, j'étais petit. Et donc là, j'ai appris tranquillement que j'étais vraiment naze et complètement à côté de la plaque parce que c'est super
c'est
à la mode en ce moment. Donc je vais pousser un peu pour que ce soit forcément vous, quoi, comme merci. ça sera fait. Non, mais merci à vous. Mais ma question, c'est est-ce que vous faites aussi avec du numérique ? Est-ce qu'on peut vous choisir des dessins, vous les envoyer et vous nous les faites ?
Alors, si vous avez des dessins numériques, on peut les faire. On n'aura pas la possibilité de produire deux rouleaux, ou à moins que ça soit. Soyez très fortuné, mais en général, on sait faire des petites séries de 100 rouleaux, des séries très courtes, où là, on va pouvoir reproduire la maquette ou le dessin original que vous avez, ça peut être une photo de famille également, sur un rouleau de papier peint. Et fait, par rapport au digital, le numérique, c'est que nous, on a une répétition du dessin tous les 53 cm ou les 64 cm, alors qu'en digital, ça va à l'infini.
Vous avez signé des collaborations, on pense à Jacadie, on pense à Tartinet Chocolat, des choses comme ça.
On a travaillé et produit pour une marque qui s'appelle Lutèce, une marque française, et on a effectivement produit les rouleaux Jacadie et Tartinet Chocolat. On a fait aussi, il y a 3-4 ans, un papier pour la Maison Le Lièvre pour Jean-Paul Gaultier. On travaille aujourd'hui pour des petites sociétés comme Pew Design, mais on vient de faire des papiers peints, beaucoup de papiers peints pour Monoprix, pour Alinéa. On se met vraiment au service des gens qui ont aussi des idées dans le papier peint et qui n'ont pas de moyens de production.
Et je précise que vous êtes le premier exportateur de papier peint vers le Royaume-Uni.
Oui, tout à fait.
7 millions de rouleaux, c'est ça
par... On produit 7 millions de rouleaux et 50% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui va vers le Royaume-Uni.
Et on ne l'a pas dit, mais vous avez le label Entreprise du patrimoine vivant. Oui. C'est important ?
C'est important. Ça montre un investissement dans un métier qui est un vieux métier et où l'entreprise a su garder ses valeurs avec des imprimeurs et des salariés dédiés à l'impression.
C'est UGPA, c'est le tout dernier fabricant de papier peint en France. C'est l'entreprise qui va bien. Merci Pascal Cielet d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Merci à notre coach Éric Léandre et fondateur de Quant. Elisabeth, Justine, on se donne rendez-vous demain à midi.
À demain, Raphaël.